Voilà, on vous parle régulièrement de notre générique, interprété par Dr. Fox. Et cette chanson, les paroles sont de Jean-Hugues Opel, que nous avons le plaisir de recevoir dans notre émission. Bonsoir Jean-Hugues.
Bonsoir.
Donc, vous avez la gentillesse de nous rejoindre pour parler de votre dernier livre, qui s'appelle « Réveiller le président » et qui vient de paraître aux éditions Rivage Frileur. Enfin, aux éditions Rivage, dans la collection Frileur. On va faire un petit résumé de ce livre. Je vais faire un petit résumé de ce livre. N'hésitez pas à dire que je dis des bêtises. Donc, au début, deux généraux américains se perdent en conjoncture. En effet, sans raison apparente, l'alerte rouge, c'est-à-dire l'alerte atomique, vient d'être déclenchée par la France. Donc, les états-majors, et d'abord, évidemment, les militaires français, ils perdent en fait leur latin. Qui et comment a pu être déclenchée cette alerte rouge? Et puis après, deuxième gros problème à résoudre, comment la stopper? Petit détail, le président vient de faire un accident vasculaire et est dans le coma au Val-de-Grâce.
Le président, le nôtre. Hein.
Le président, oui, celui qui est encore en exercice. Et le président du Sénat ne se souvient plus du code. Est-ce que ce résumé vous convient pour le début?
C'est pas mal. On est tout à fait dans la situation.
Alors, on ne va pas dévoiler le reste parce que c'est vraiment un thriller haletant, donc on n'a pas du tout envie de dévoiler la suite. Mais comment est venue l'idée de ce livre-là?
Oh, il remonte, celui-là, je le trimballe depuis pas mal de temps. Dans tous les autres livres que j'ai faits, moi j'aime bien changer régulièrement. J'ai pas de héros qui arrive entier à la fin des livres pour revenir, pour faire des suites. J'ai exploré la banlieue rouge, la banlieue plus huppée, j'ai fait du serial killer. Et depuis quelques temps, c'est vrai que je travaille une veine présidentielle, on va dire. J'asticote le président. Et depuis très très longtemps, je voulais faire ce qu'on appelle, d'un terme horriblement barbare, le techno-thriller. Techno-thriller, c'est... Tout le monde pensera à l'Octobre rouge de Tom Clancy, dont je voulais faire du Tom Clancy, mais mieux, quand même.
Jusque-là, c'est réussi, alors.
Jusque-là, c'est très réussi.
Donc, pour faire du bon techno-thriller, il faut de la conspiration, du complot, des sous-marins nucléaires, des codes à casser, des espions, des militaires qui s'interrogent. Donc, tout ça, je savais.
Mais... Est-ce que les militaires s'interrogent?
Les militaires s'interrogent toujours, de préférence, autour d'une carte ou au Pentagone avec des donuts. Ça, c'est incontournable. Et il me manquait par contre la matière principale de la chose, et cette matière, je dois avouer que je l'ai trouvée en septembre 2005, quand j'ai appris que notre bon président avait disparu de la conscience pendant une bonne trezaine d'heures, sans que le Premier ministre ni le ministre de l'Intérieur en aient été avertis. Et donc je me suis dit, j'ai trouvé. En plus, ça va sortir début 2007 avant les élections. Le polar étant l'art de la métaphore, nous allons donc filer la métaphore. Une catastrophe menace le pays à brève échéance. Il faut réagir.
Donc finalement, vous êtes nourri du pauvre malheur de notre brave président.
Oui,
franchement.
Mais que j'aime bien, parce que j'étais plus hargneux dans le précédent livre, il faut être honnête.
Tout à fait.
French Tabloids. Et là, depuis, comme on dit, on ne tire pas sur les ambulances, mais on tire encore moins sur les corbillards. Donc j'ai un peu rangé ma hargne. Mais j'avais d'autres victimes à mettre sous la dent.
Ah oui, ça, des victimes, il y en a quelques-unes. C'est un roman, donc, comme vous l'avez dit, qui est très, très documenté. Ce qui nous intéresse, c'est un petit peu votre manière dont vous avez petit à petit construit ce roman. Comment vous avez travaillé? Est-ce que vous avez préparé toute la documentation par avance, ou c'est au fur et à mesure de votre écriture que les besoins de documentation se sont fait sentir?
Ça fait plus de 10 ans que je compile tout ce qui a trait à la dissuasion, à la force nucléaire, aux différents vecteurs, etc. Donc ça fait un bon moment. Donc il y a 10 ans déjà, il y avait moins d'Internet. Avec les possibilités de l'Internet, j'ai fait des nouvelles découvertes. Quelques amis connaissant mon obsession m'ont envoyé des petits liens, des sites, là. Entre autres certains où on répertorie tous les accidents possibles et imaginables relatifs à la chose. Comme ça a mis du temps, quand je me suis lancé dans l'écriture... Au début de l'été dernier, il y avait des choses qui étaient complètement obsolètes. Il a fallu que je retravaille un petit peu. Par exemple, le plateau d'Albion, qui était en exercice il y a encore une quinzaine d'années, ne l'est plus.
C'est sûr.
Donc il a fallu que je vérifie un peu tout ce qui avait changé, pas changé. Contrairement à certains candidats, donc moi je connais très bien les sous-marins, leur petit nom, quasiment l'âge du capitaine. Mais ça, c'est, j'allais dire, des informations que n'importe qui peut trouver pour une raison simple. Et tout bon candidat est impardonnable de ne pas le savoir. La dissuasion ne marche que si tout le monde la connaît. Donc c'est, les informations sont absolument à la portée de tout le
monde. C'est partie de la définition même du mot dissuasion, me semble-t-il.
S'ils ne sont pas au courant, donc ça là-dessus, combien il y a de sous-marins, combien il y a de missiles dans chaque sous-marin, combien il y a de têtes nucléaires dans chaque missile, c'est connu là, le rayon d'action, la portée, la puissance des destructions, tout ça, ça se trouve même dans une encyclopédie toute bête.
Alors j'ai posé une question un peu provocatrice, pourquoi avoir envie encore d'en parler ?
D'en parler, de...
Enfin, de d'écrire une fiction autour de ces, on va dire, entre guillemets, anecdotes.
Ah, parce que je trouve que c'était intéressant. Une fois qu'on a trouvé la métaphore de la menace, comment dire, le pays est à l'aube d'une grande menace, remplacer dissuasion par élection, et résultat des élections, ça marche très bien. Donc on peut en parler.
Oui, mais là, le jeu marche pas pareil. La dissuasion est à son plein, mais bon...
Oui, non, il y avait un truc aussi qui m'intéressait dans le principe, c'était bon, d'abord aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'atome. Il se trouve aussi que les informations, l'actualité m'a un petit peu rattrapé. Je remercie le président nord-coréen et le président iranien d'avoir apporté de l'eau à mon moulin depuis cet été, en relançant la chose. Et puis, non, je trouve que c'était bien de réfléchir un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire
Je crois que c'est une des grandes qualités de cette fiction, parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que donc ce n'est pas une documentation exhaustive sur cette dissuasion nucléaire, mais bel et bien un très beau roman qui se lit d'une traite, parce que avec tous les codes qui permet de toujours tenir en haleine le lecteur. Ce qui est intéressant, c'est de voir au fur et à mesure, d'ailleurs, tous les acteurs. Alors ça, c'est une construction assez étonnante. Chapitre après chapitre, on part dans le monde entier des acteurs multiples américains, dans les sous-marins, dans les avions. Donc là, ça ne doit pas être évident, justement, de mêler ce que vous avez appris au fur et à mesure de votre documentation, tout en gardant le fil de cette fiction, de ce thriller.
Bah, ça, c'est j'en ai aussi lu quelques-uns, donc j'ai un peu piqué à droite à gauche aussi, hein, parce que c'est un grand classique. Et justement, ça, c'est ce qui est génial dans le polar, quelle que soit sa couleur et combien sa tendance, comme c'est du roman de genre, il y a les données incontournables. Des fois, ça peut même tomber dans le cliché, je veux dire, dans le poncif, mais on peut jouer avec, on peut les retourner. Donc le côté, je dis, les généraux qui discutent, les services secrets, tout ça, la matière de la chose est assez facile à trouver. Après, bon, la tricoter, là, ma modestie proverbiale m'empêche de dire que je l'ai bien fait.
Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, franchement, voilà, c'était bien.
Ça se tricote gentiment, et en plus, ce qui permettait, j'avoue, ce qui facilitait peut-être un petit peu l'histoire, c'est que je voulais que ce soit un peu dans le côté comédie, le côté un peu bouffon de la chose. Donc, il simplifie, j'allais dire, certaines choses, mais par contre, je me suis rendu compte à l'écriture qu'il est beaucoup plus reposant d'écrire des noirceurs absolues. Beaucoup plus facile, alors que d'essayer justement de côté un peu plus comédie, j'ai beaucoup souffert, bizarrement.
Oui, alors c'est bête, parce que là, ça vient de me piquer et me choper deux questions d'un coup que quand même je vais essayer de synthétiser. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on lit ce livre, on est obligé de penser à Tom Clancy. À mon avis, c'est bien meilleur. Parce que plus rapide, plus condensé, et puis surtout, cette constante que vous venez d'évoquer, c'est l'humour. On sourit ou on éclate de rire à peu près toutes les deux pages. Et pourquoi il fallait partir dans la comédie alors qu'effectivement, ça aurait pu être un thriller totalement sérieux, un techno-thriller, comme vous venez de l'évoquer, totalement sérieux, sans une once d'humour, parce que l'humour et les militaires et la dissuasion nucléaire, ça fait peut-être pas bon ménage
au
départ.
Et même dans Tom Clancy, l'humour, il y en a guère.
J'ai pas souvenir qu'on rigole beaucoup dans Le Pauvre Rouge. C'est peut-être pour ça. Je crois que le sujet l'imposait. Bon, j'avais déjà fait des livres beaucoup plus sérieux, beaucoup plus noirs avant. Et c'est vrai que j'avais envie un peu de changer. Et je pense que ce qui a vraiment déclenché la veine humoristique, c'est tous les petits booms que j'ai trouvés, toutes les petites anecdotes sur les ratages possibles du système, qui aurait pu avoir des conséquences absolument dramatiques, et qui sont...
Alors, je me permets une petite parenthèse et une petite interruption pour expliquer ces booms de manière, on va dire, un petit peu irrégulière. Vous donnez des anecdotes totalement vraies, c'est pas qu'elles sont réalistes, qu'elles sont vraies, d'incidents qui auraient pu tourner au drame, dont la plupart du temps une vache décède ou quelques animaux sont les victimes, mais qui sont des faits qui peuvent vraiment faire froid dans le dos.
Bah, qui font froid dans le dos, parce que si on applique ça aux civils, ça donne Tchernobyl. Ou de sympathiques, si mes souvenirs sont bons, de sympathiques savants, dire, tiens, si on essayait de voir s'il y avait une catastrophe, est-ce qu'on pourrait réagir ? Résultat, non.
Oui, mais ça fait net.
Bon, heureusement, c'est resté localisé. Hein. Les nuages se sont arrêtés aux frontières, Dieu merci.
Ah oui, mais c'est merveilleux. Mais ils étaient sans papier, les nuages, à cette époque-là.
On était tranquille et je me suis dit, bon, c'était un réacteur nucléaire, c'est déjà pas mal, mais ça ne bouge pas trop. La même chose avec un bombardier chargé à plusieurs mégatonnes, ça devient, là, tout à coup, franchement, beaucoup plus rigolo. Et donc, comme il y avait cette espèce de côté drôle qui donnait ça, bon, en plus, moi, je cache pas mon amour de film Docteur Follamour, qui est plutôt rigolo dans le genre, et je crois que ça faisait peut-être mieux passer la métaphore par ce biais rigolo, parce qu'en plus, il y avait le côté que j'aimais bien dans l'idée de jouer là-dessus sur la dissuasion française. On n'arrête pas d'être... c'est les déclinologues, on dit maintenant, on est des gros nuls, mais dit, on est un pays qui a la puissance atomique. Et le gag, c'est à la limite, on passe en alerte rouge, mais bon Dieu, qui va-t-on attaquer en 2007? Et ça, effectivement, ça permet de rigoler au Pentagone, de se dire, mais ils vont attaquer qui?
Oui, mais quand même de leur faire aussi quelques frayeurs.
Ah bah oui, forcément, parce que théoriquement, le principe de la dissuasion, c'est on est à égalité de force, donc on ne peut attaquer qu'une puissance nucléaire. Donc les Américains doivent être inquiets, les Russes aussi.
Oui, on va pas les citer tous, mais c'est vrai qu'ils peuvent être inquiets. Alors, l'autre référence, on a cité Tom Clancy, Docteur Follamour aussi correspond très bien. Mais moi, je vais peut-être donner une référence très bête, mais moi, j'ai aussi pensé à Langelot.
Oh mon Dieu! Ah bah ça, venir Monsieur Philippe Vigneault pourrait travailler au SNIF sans problème.
Voilà c'est un petit peu ça. Alors, pardon.
Oui, tout à fait. En plus, c'est une référence que j'avais déjà utilisée dans Carthago.
Je ne m'en souviens pas, c'était vraiment une idée personnelle. Enfin bon.
Non, mais c'est pas faux.
Alors, est-ce que justement, on pourrait définir ça? Moi, tout au long du récit, je ne savais pas trop si je devais prendre ça pour un livre très sérieux qui ne se prend pas du tout au sérieux, ou au contraire, un livre complètement déconnant, mais avec des passages à prendre plus qu'au sérieux. C'est quel côté de la force que vous préférez
Ah, moi, toujours du côté obscur et ricanant. Il faut les deux, mais en même temps, si j'osais une comparaison, les chevilles vont un petit peu gonfler, mais je veux dire, il n'y a pas que du Langeau, il y a aussi, d'une certaine manière, un peu du Westlake.
Oui.
Donald Westlake, dans le côté de dire, dans des trucs complètement farfelus, frappadingues, des espèces de courses-poursuites délirantes, il dit des choses absolument formidables et graves. Donc ça, c'est plutôt de ce côté-là. Sur ce livre-là, je précise bien. Après, je ne sais pas si j'y reviendrai ou pas. Et effectivement, la référence, parce que je me suis retapé quelques best-sellers, entre guillemets, américains à base de sous-marins, on ne peut pas dire qu'on se fende franchement la gueule en les lisant. Ça, c'est sûr, c'est épais, ça traîne, ça dort. Donc j'aimais bien l'effet de contraste. Mais ce serait plutôt le côté, avec le sourire, des choses très graves.
Voilà, alors justement, une foultitude de personnages, des personnages réels. On retrouve nos dirigeants, avec en tête Michel Alliot-Marie qui essaye de gérer la crise, et puis évidemment des personnages totalement inventés. Par exemple, Caroline Laverda, une informaticienne de très haut niveau, une autre, Marie-Reine de Beauchâtel. Et dans le livre, il me semble bien que c'est les seuls capables de sauver la situation.
Ah bah les femmes sont l'avenir des hommes, c'est ça?
Voilà, oui, non, mais en fait, c'est un petit peu là-dessus que je voulais... C'est-à-dire que mon côté féministe me fait demander, est-ce que, en fait, les femmes seraient seules capables de sauver le monde, finalement?
Alors, il faut toujours mettre un petit peu de tendresse dans ce monde de brutes. Mais à la réflexion après, je me suis demandé si c'était pas trop politiquement correct. Je vais essayer de penser à faire un livre où elle serait méchante, pour changer un peu.
Mais ce qui serait très, très éloigné d'une quelconque réalité.
Oui, encore que notre ministre des Armées est assez rigide quand même.
Ah bon?
Ce qui est assez éloigné de la vérité, c'est que Caroline Laverda a l'air d'être plutôt d'un aspect agréable. Et ben, dans les informaticiennes, moi qui exerce cette profession-là, je n'en ai guère rencontré. Oui, c'est ça la fiction.
C'est justement les joies de la fiction. On peut s'inventer des collègues de bureau. Alors justement, moi... pour le côté informatique, je précise que j'ai pris conseil auprès de grands maîtres, n'est-ce pas ?
Alors, donc, ces deux personnages, j'avais l'impression, moi aussi, que c'était un petit peu un contre-pied. Et justement, là, c'est très wesleyquien, si on peut dire, dans le genre. C'est-à-dire un contre-pied à ce style de littérature qui est plutôt, en gros, une littérature de mecs.
C'est vrai.
Ce sont des livres écrits par des mecs, dont les personnages sont majoritairement des mecs. Il y a d'ailleurs peu de bonnes femmes, je pense, dans les sous-marins.
Ah ben il y en a absolument zéro, donc comme ça on est tranquille.
Oui, c'est pratique. De toute façon, ça doit porter malheur à mon avis.
Là, je ne pouvais pas tricher. Non, je crois que ça pose des problèmes très compliqués. Il faut faire des toilettes séparées, il n'y a pas la place. Enfin.
Oui, enfin, il faut quand même avoir vu ce merveilleux film Opération Petticoat. Mais oui. Bon, c'est encore autre chose. C'est un très vieux film. Donc ces deux personnages, elles sont là pour. Mettre, j'ai l'impression, plein de couleurs aussi, parce que il faut savoir une chose, c'est que la majorité, et ça aussi je trouve que c'est une réussite, c'est un huis clos, à part qu'il y a plusieurs huis clos, mm-hmm. C'est tout en sous-sol, sous-marin,
il y a... J'aime l'expression en sous-sol, oui.
Oui, j'aurais pas dû commencer par cet exemple, oui, bien évidemment, mais sous l'Élysée, il y a apparemment un centre Jupiter.
Ça, c'est pas un secret, il est là.
Il est là. C'est pareil, les généraux américains discutent dans les sous-sols du Pentagone. Et ces deux femmes, Caroline et Marie-Reine, apportent, j'ai l'impression, la lumière dans le roman.
Alors ça. C'est pas faux. Je ne l'avais pas théorisé comme ça, mais c'est vrai que je me rends compte après. Moi, je pensais plutôt le côté huis clos, chacun enfermé pour résoudre un problème, en plus, dans un temps donné, avec alors, en plus le côté rigolo du décalage horaire entre Washington, la France, la position du sous-marin. Eux, ils n'ont pas trop de problèmes de jour ou de nuit quand même. Mais c'est vrai que ce ne sont que des gens enfermés quelque part, à grande profondeur. Donc dans les ténèbres marines ou les ténèbres terrestres, c'est sûr. Et donc, ce serait donc, il faudrait trouver un équivalent féminin de Prométhée qui apporte le feu aux humains, qui apporte la lumière.
Qui apporte la lumière. Serait-ce une solution informatique ?
Ça, je ne sais pas. Parce que on trouve effectivement une solution, mais comme le problème l'est aussi, moi, je pense que, enfin, j'espère qu'on a compris dans la métaphore une menace. Le pays est menacé, on peut trouver une solution, mais il faut quand même des humains pour la trouver, cette solution.
Ouais, j'ai l'impression d'une mise en abîme, en fait, en quelque sorte, de la paranoïa dans son ensemble, parce qu'au fur et à mesure, elle va forcément augmenter au fur et à mesure des interrogations et des non-réponses. Et puis, oula.
Pardon, oui.
Pardon, excusez-moi. Donc, au fur et à mesure, et puis, justement, le fait d'isoler ces personnes... dans ces bunkers ou dans des avions ou des sous-marins, fait que cette paranoïa forcément augmente de plus en plus.
Bah, elle augmente et en plus, moi ce que j'aimais bien aussi dans l'histoire, parce que ça, depuis qu'on a inventé ces histoires de dissuasion, qui sont en fait des trucs complètement de Cro-Magnon, parce qu'on en est encore à dire, si tu viens jouer dans ma cour, je te tape dessus, ici c'est chez moi, là, mais je te pique ton territoire. Et tout ça, au plus fort de la guerre froide, est pensé par des gens qui, si jamais ils mettaient, comment dire, en œuvre leur potentiel de destruction, vont rester un très long moment là où ils sont, avant de pouvoir remonter à la surface.
Oui, ça c'est sûr. Une dernière question qui va être beaucoup plus générale. On connaît vos livres depuis un certain temps, et moi j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de construire, on va dire, une œuvre... Qui va permettre de vous essayer à tous les gens du noir et de décliner tous les styles, en fait.
Bah oui, en finissant celui-là, je ne savais pas trop bien quoi faire. J'attends le résultat des élections, de toute façon, déjà avant de décider. Et puis, je me demande, il y a un petit peu l'actualité qui sonne, je ne vais pas essayer, c'est encore un genre qu'on appelle le western financier. Donc, je ne connais absolument rien à la finance, ça devrait être très bien.
Bah, apparemment, comme vous savez très bien vous documenter, je pense que... Dans un ou deux ans, vous aurez suffisamment de, dossiers pour pouvoir...
Une petite société luxembourgeoise, comme ça.
Par exemple.
Il y a les comédies sentimentales aussi, hein, ça marche bien, paraît-il.
Les
comédies sentimentales.
Ça, je ne sais pas faire ça. Moi,
ça peut être très noir.
S'il n'y a pas une ou deux tronçonneuses, j'ai du mal.
Bon.
Et puisqu'il y a des personnages réels dans ce livre, est-ce qu'ils ont reçu le livre? Est-ce qu'ils ont réagi?
Ah, ça, je ne sais pas. J'ai pas encore eu les RG chez moi. À première vue, je n'ai pas eu non plus les services secrets de la Défense pour me demander comment j'avais fait pour percer les codes. Donc, je pense que c'est bien inventé, mais que c'est pas les bons. Alors là, je ne peux pas savoir. Ma paranoïa ambiante me penserait à dire que même si c'était le cas, ils sont, je dirais, assez intelligents pour ne pas moufter.
Oui, c'est évident.
J'espère, parce que si on frappe à ma porte pour me dire « dites donc », je serais très ennuyé.
Bah écoutez, appelez-nous au secours, hein, on a quelques connaissances aussi, hein, on ne sait pas. Donc merci beaucoup Jean-Hugo Pell, je vais profiter des quelques secondes qui nous restent pour rappeler les coordonnées du livre. Donc ça s'appelle « Réveiller le président », c'est aux éditions Rivage Thriller et c'est à acheter d'urgence. Merci Monsieur Pell. Garde à